Alors, on va passer donc justement à la présentation de Bail Français. Et je laisse la parole à Émilie Girard et Adrien Bodnec, qui sont les deux fondateurs de Bail Français. Exact. C'est ça, une petite start-up du coin.
Voilà, on a été créé à l'incubateur de Besançon et à Montbéliard ensuite, et maintenant on est à Belfort. On migre vers le Nord-Franche-Comté. Donc juste pour vous présenter rapidement Bail Français, nous on croit que, en fait, le principe de Bail Français, c'est qu'on croit que chacun peut améliorer le monde dans lequel on vit. Nous, notre credo, c'est que l'emploi en France, l'emploi industriel, on peut le préserver, on peut en créer d'autres, on peut créer des nouveaux savoir-faire. Et ce qu'on veut, c'est donner à chacun le pouvoir de le faire. Alors aujourd'hui, on le fait à travers notre site internet, qui est un site de vente en ligne de produits fabriqués en France. Sur chaque produit, on tient à informer les gens de l'impact de leur achat sur l'emploi. Donc sur chaque produit, vous aurez une carte de France qui vous dira telle étape de fabrication est faite dans tel département par tant d'employés. Et pour aller encore plus loin, on a travaillé avec l'Université Paris-Dauphine pour développer ce qu'on appelle un baromètre qui vous permet de dire quand vous achetez un t-shirt, vous avez permis de financer 50 minutes de travail en France en vous donnant le détail par département et par étape de fabrication. Donc c'est à partir de ce baromètre qu'on a rencontré Jacques et Louis, et c'est sur cela qu'on a travaillé justement pour proposer un indicateur pertinent à être. Donc en fait, notre concept, c'est de proposer un indicateur destiné aux TPE et PME qui regroupe les volets... Ça n'a pas repris forcément très bien sur l'ordinateur. Donc, le volet social avec, en gros, on va vous donner une carte de lecture qui vous permettra de dire, mon entreprise, quand j'ai un marché public de 100 000 euros, j'ai créé tant d'emplois, j'ai financé tant d'emplois directs et j'ai financé tant d'emplois indirects dans tel et tel territoire. Donc, c'est vraiment une carte territoriale de votre empreinte, de l'empreinte de votre entreprise sur l'emploi en France. Environnemental, ça c'est un point qu'on travaille avec Jacques et Louis pour définir des critères environnementaux qui nous permettent d'être cohérents et de mesurer toutes les entreprises de la même façon pour que ce soit comparable. Et enfin, un impact sociétal qui sera basé sur les charges et les impôts, tout ce qui, la richesse qui revient, à l'État français et aux collectivités pour refaire fonctionner le système. Si tu vas à la slide suivante. Donc, en fait, le but, c'est de vous créer un passeport RSE qui serait une carte de lecture autant pour l'entreprise de connaître son impact sur l'emploi direct généré en France, sur la contribution sociétale et sur les emplois indirects, et aussi pour les marchés publics, pour les collectivités, de dire à travers mon marché public de 100 000 euros, j'ai permis de générer tant d'emplois directs dans mon territoire ou dans le territoire d'à côté, de contribuer de façon sociétale à mon territoire et de générer des emplois indirects dans mon territoire ou en France ou ailleurs, mais d'avoir une mesure et de permettre aux collectivités de choisir en vous basant sur des faits et sur des mesures. Donc la méthode, on l'a vraiment simplifiée. Donc le but, c'est de collecter les documents auprès des entreprises. Ensuite, on passe par une interview avec le dirigeant d'entreprise pour connaître son entreprise, pour connaître le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, on fait notre travail par notre baromètre pour calculer toutes caractériser en fait l'entreprise et lui remettre son passeport qui lui permettra, lorsqu'elle applique à un marché public, même si c'est peut-être pas aujourd'hui demander sur le marché public, de dire mon offre elle permet tant d'emplois directs, tant d'emplois indirects, elle permet de contribuer de façon sociétale à la société, donc de vraiment donner l'empreinte que le marché public à travers cette société aura sur le territoire. Voilà, on a essayé de faire assez simple.
Juste
oui. Il y a une échelle de temps à définir parce que pour l'impact, c'est pas forcément lisible. C'est sur le temps long, quoi. Donc, comment vous faites ?
Oui, c'est sur le temps long. En fait, on a pris le principe de modéliser l'entreprise chaque année par une photo et de prendre en compte que l'image de la société ne va pas varier grandement d'une année à l'autre. Donc, chaque année, en fait, on réévalue les caractéristiques de l'entreprise pour les tenir à jour.
C'est un peu sur ça qu'on avait travaillé avec l'hôpital, sur le chantier de l'hôpital. Et on avait démontré nos fameux 46% de nos retours dans les caisses de l'État et 188 emplois pendant 3 ans de perdus. C'est vrai que ça avait choqué pas mal de monde jusque dans les ministères. On s'est aperçu, et c'est primordial aujourd'hui d'avoir cet indicateur. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu en faisant la tournée des maires, des responsables politiques, des élus, que chacun de ces décideurs était d'accord avec nous. Il fallait prendre des entreprises locales, il fallait consommer local, consommer français. Sauf qu'il y a ce fameux code des marchés publics, et que dès qu'un élu prend la décision du mieux-disant, systématiquement, il se fait contredire et se fait ramener devant le tribunal par sa liste d'opposition ou par tout simplement quelquefois les services techniques de sa ville. Donc, parce qu'il n'y a pas de chiffres à ce mieux-disant. Et on avait trouvé intéressant d'avoir cet indicateur qui classe l'entreprise et qui donne un chiffre à l'élu pour permettre de prendre sa décision et qui soit incontestable.
Quel est le calendrier ? Est-ce que le passeport RSE est opérationnel aujourd'hui ?
Il n'est pas encore opérationnel. En fait, on prévoit de faire les premiers audits tests en septembre pour avoir les premiers retours. Et après, on a commencé à vraiment le faire de façon systématique.
Je te prie, Jacques. Ouais, et juste en complément, donc l'idée, c'est de faire une phase test, notamment sur les membres du conseil d'administration et les entreprises du conseil d'administration de être. Il va falloir commencer par là. Donc voilà, c'est quand même important qu'on commence comme ça. Et puis ne serait-ce qu'en termes de déontologie et d'approche, quoi. C'est quand même intéressant de le passer. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises qui constituent le conseil d'administration de Vêtre, on a quand même des entreprises de secteurs différents et de tailles différentes également. Bon, on n'a pas de très grandes entreprises, mais on a quand même des entreprises différentes. Et déjà, il y a de quoi faire chez certains.
On sera aussi dans une logique, au vu de ce qu'on a eu, c'est que si on veut commencer à vouloir tout prendre en compte dans un même outil, ça devient voilà, parce que ça devient impossible. On va avoir chacun ses problématiques particulières à traiter. Donc l'idée, c'est d'avoir une offre de base socle, simple, pragmatique, sous l'angle qui a été présenté là, et après plus de travailler dans une logique à la carte. Ça va être l'idée, parce qu'en effet, on en parlait tout à l'heure en conseil d'administration, et si on avait continué, on exposait le timing de notre CA, parce qu'entre Philippe qui nous parle du monde du bio et Thierry qui nous parlait de son époque dans l'insertion, on n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Donc dire on a un outil qui va vous donner la bonne réponse à tous les deux, il est modélisé, faut à un moment donné, il faut être lucide et réaliste. Tout le monde n'est pas non plus dans la problématique des marchés publics, donc il ne s'agit pas non plus d'en faire le graal et impératif aussi par rapport à ça. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait un socle accessible, parce que c'est aussi un outil de sensibilisation. Donc c'est pour ça qu'on veut un socle basique, simple. La notion aussi, c'est qu'il faut que ça parle aux citoyens, et la notion de l'emploi généré est un indicateur qui cause. Donc c'est aussi, ça sera le fondement du SOC. Et après, on peut décliner pléthore d'indicateurs qui va permettre, en effet, en fonction de la problématique de l'entreprise, de trouver l'indicateur qui va être celui aussi qui va lui permettre de mieux mettre en avant sa propre problématique, qui peut être pour un l'emploi, pour un autre l'écologie, etc., etc.
La problématique marché public est importante, mais c'est pas la seule. Il y a aussi effectivement l'image vis-à-vis des citoyens, et il y a aussi, quand on est sur des marchés B2B, l'image qu'on peut donner vis-à-vis des entreprises clients.
Tout à fait, voilà. C'est notre histoire, les marchés publics à être, mais en effet, il faut pas qu'on s'enferme dedans et qu'on polarise tout au travers de ça. Il y a un certain nombre d'autres éléments. Donc la problématique, à mon avis, se traitera beaucoup plus facilement avec une approche à la carte où on pourra développer les choses. C'est-à-dire, il n'est pas incohérent quand on rencontre un chef d'entreprise de lui dire, OK, on vous adressera une offre sur un indicateur adapté à la problématique. pratiques de votre entreprise, à partir du moment où on a posé un socle.
Qu'est-ce qui fera... Pardon, tu m'entends. C'est Gilles. Excusez-moi. Qu'est-ce qui fera que cet indicateur, ce passeport RSE, soit validé au niveau des collectivités? C'est-à-dire que c'est bien de faire cet outil, c'est un outil qui est vachement interne, qui va être entre nous, mais après, comment arriver à ce que cet outil soit validé pour arriver justement à ce que dans l'offre publique, on dise, bah, le gars, il a un passeport qui valorise l'emploi, d'accord, mais comment le lien, on va le faire avec les collectivités locales pour qu'arriver à ce que ce passeport ait une valeur? Parce que c'est bien de se le faire entre nous, mais si derrière... personne n'en veut ou personne ne veut le reconnaître, parce que c'est quand même là la problématique. Qu'est-ce qui va lui donner ce côté réel et actif, voilà.
Après, justement, c'est le cadre aussi du partenariat entre Bail Français et la plateforme Être. C'est que Être aussi joue ce rôle auprès des marchés publics, que nous aussi, de notre côté, on joue notre rôle auprès des collectivités et qu'ensemble, on puisse faire reconnaître cet outil, que les entreprises commencent à l'utiliser, à le présenter dans le cadre des marchés publics, que nous, on communique dessus, que la plateforme Être communique dessus. Mais je pense que, justement, comme on a dit, on veut une offre abordable, parce que plus il y aura de monde qui l'utilisera, plus ce sera connu, et plus ça permettra de donner du pouvoir à cet outil.
C'était... Oui, vas-y, Thierry.
Juste pour rappeler... que pendant un peu moins de 6 mois, j'ai pu rencontrer des entreprises et puis certaines collectivités territoriales. Pour parler des collectivités, puisqu'on est en train de parler des marchés publics, à la question de savoir si les élus étaient désireux de pouvoir communiquer et valoriser ce qu'elles contribuaient à reverser au territoire, évidemment que la tension était particulièrement accrue et que je pense qu'effectivement, on en a parlé en conseil d'administration, l'idée serait effectivement de produire plusieurs supports ou plusieurs approches qui soient vraiment en rapport avec la réalité de chacun de nos interlocuteurs, qu'on s'intéresse sincèrement à chacune des entreprises ou des collectivités, mesurer à notre niveau avec le concours des décideurs sur quoi effectivement il serait bon et pertinent de pouvoir valoriser, accompagner, aider à favoriser les indicateurs sur la durée, d'où l'intérêt de créer un club d'échange, d'expérimentation, de croisement, vraiment d'être acteur et puis vraiment de participer activement au développement et à la bonne évolution du process. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'être dans la réalité et de faire du concret. Pour répondre à Gilles, il faut que les gens y trouvent un intérêt certain sur le fait de pouvoir communiquer, ne serait-ce que ce qui existe déjà dans l'entreprise ou dans la collectivité, et d'aider à la bonne communication et au bon ciblage des éléments pertinents. Et je pense que pour avoir rodé un petit peu l'expérimentation Biome pendant encore un petit peu moins de 6 mois, j'ai vraiment senti la pertinence et puis la vraie valeur de ce qu'on peut être à même de faire ici localement, sur notre territoire, avec des gens, des personnes engagées comme nous sommes aujourd'hui, parce que je sens que si on est là, c'est pas par hasard. Il y a des valeurs, il y a une éthique, il y a une volonté de valoriser ceux qui sont vraiment sincères et authentiques dans une volonté de favoriser le bien commun. Et en tous ces points, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Enfin, moi, je suis très heureux de connaître Adrien et Émilie aujourd'hui parce que le travail qui a déjà été réalisé vient corroborer ce que j'ai déjà pu sentir avec ma petite expérience dans le domaine de la RSE. Et je pense qu'on est sur la bonne voie.
On a eu la même problématique quand on a commencé à avancer, hein, j'ai tout lien avec Bio, mais de toute façon, je parle sous le couvert d'Aurore, on ne pourra pas arriver un jour à créer un appel d'offres d'un marché public qui dit on vous donnera tant sur le prix, tant sur la technique et tant sur l'indicateur du schmoll. D'accord, puisque de toute façon, voilà. Donc, à un moment donné, une entreprise doit pouvoir aussi répondre si elle a pas cet indicateur. Après, ce qui fera la différence, ça sera le lobbying qu'on sera capable de faire au niveau de l'aide pour que les collectivités s'accaparent notre indicateur, qui soit véritablement aussi l'outil territorial d'animation de la RSE. C'est ce qui fera la différence. Entre une entreprise qui va arriver en disant j'ai le super label Lucie, qui est aujourd'hui une référence sur le label RSE, mais qui n'est pas forcément hyper connu localement, et un indicateur qu'on aura su promouvoir et animer sur le terrain, on aura aussi un autre regard au moment des dépouillements, au niveau des dépouillements des offres. Mais ça passera de toute façon forcément par une mise en forme dans l'appel d'offres, donc c'est l'expertise qu'on va amener avec Être, et ça passera par une prise de conscience des élus qu'à un moment donné il faut regarder les appels d'offres avec intelligence et qu'il faut les préparer dans ce sens. La problématique qui fait qu'à un moment donné on a pris contact avec Biome et qu'aujourd'hui on est avec Bail Français, c'est qu'il n'existe pas l'indicateur pour les TPE-PME aujourd'hui. Sur le marché, il n'y a pas une structure qui propose quelque chose accessible aux petites entreprises. Si vous faites un Lucie, je ne sais pas, ça coûte combien pour faire un label Lucie? Tu as une autre idée, Philippe? C'est 10 000. Voilà, c'est 10 000. Voilà, bon. Il n'y a pas d'outil aujourd'hui qui nous permet à nos petites entreprises de commencer à se positionner sur ce terrain-là.
Il y a la FNOR qui a sorti le label IA engagé, qui s'appelait Score avant. Qui est autour de 1 000 euros, et en gros, vous remplissez un questionnaire, vous avez une évaluation, il vous donne une note, et vous avez un label que vous pouvez afficher. Mais là-dessus, c'est très... Enfin, moi, juste sur ce point-là, c'est très compliqué aussi, parce que tout le monde veut... Et ça, moi, j'en appelle aux institutions. C'est ce que je dis, c'est le même message que je fais passer sur ma région. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il faudrait toujours donner des labels à tous ceux pour les encourager, à tous ceux qui font quelque chose pour les encourager. Et à force de faire ça, il y a 15 000 labels qui existent et il n'y a plus aucune visibilité. Et c'est une vraie problématique que vous devez vous poser. C'est est-ce que oui ou non, on donne des choses à des gens parce que ouais, ils sont en marche, pas mal, etc. Sans faire de mauvais jeu de mots, excusez-moi. Il y a des mots qu'il faut bientôt proscrire de vocabulaire pour être sûr de pas être tendancieux. Mais voilà. Donc, et moi dans ma région, potentiellement, je suis en lutte parce que il y a des gens qui disent oui, mais pour attirer les gens vers la RSE, il faut les encourager, alors il faut leur donner un petit label, il faut qu'ils puissent montrer quelque chose parce qu'ils sont dans le parcours, etc., etc. Et moi, je pense que c'est pas bon du tout, parce que personne s'y retrouve. Donc, il y a des labels qui existent. Il faut arrêter de créer des nouveaux labels. Il faut utiliser ceux qui existent. Il faut faire des partenariats avec ceux qui les mettent en avant, parce qu'ils sont reconnus. Et effectivement, le travail que vous faites sur les marchés publics est énorme. Parce que si vous arrivez à trouver la manière de pouvoir récompenser des entreprises qui ont à cœur de mettre l'homme, l'environnement, le territoire au centre de leurs préoccupations, vous avez touché la martingale, quoi. Parce que c'est ce que toutes les régions cherchent, c'est ce que tout le monde cherche. Donc si vous, le Doubs, le Besançon, la région, vous y arrivez, c'est une belle gageure, mais c'est parce que c'est impossible qu'ils l'ont fait, quoi.
On a l'habitude. Et ce qui est intéressant dans tout ce qu'on échange, puis après je te laisse la parole, excuse-moi, je n'avais pas vu, c'est qu'en fait, on ne crée surtout pas un label, d'accord ? C'est bien une mesure d'impact et qui peut être tout à fait cohérente avec les autres, avec les labels qui existent. Parce qu'en général, de toute façon, quand on a un label, on a besoin d'indicateurs, on a besoin de chiffres, on a besoin de démontrer justement la démarche dans laquelle on est, d'accord ? Et là, qu'on soit... dans une démarche ISO 26000, qu'on soit sur un label Lucie, qu'on soit d'accord sur les différentes autres démarches qui existent, qui permettent de valoriser notre démarche RSE, ça sera un outil qui va venir contribuer à cette démarche-là, mais qui n'est certainement pas du tout concurrente. Et en général, parce que moi j'ai une autre casquette, hein, j'accompagne des entreprises sur la mise en place de démarches QSE, RSE et compagnie. En général, on recherche des indicateurs et comment mesurer de façon pertinente et intelligente notre activité, d'accord. Donc ça y contribue, c'est en aucun cas un truc de plus qui se un nouveau label plutôt peu connu, c'est pas ça du tout, puisque c'est vraiment on est plus sur de l'indicateur.
Et pour finir, comme on est sur les labels, pour éclairer un peu aussi, il y a beaucoup de labels de filières métiers qui existent. Et vous aussi, en tant que qui réfléchissez sur qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les entreprises, c'est aussi les flécher vers leur label des filières métiers. Il y a à la fois des labels mis en place par les agences de notation, la FNOR, etc., et aussi les propres filières métiers qui inventent leurs propres labels pour qui sont reconnus par leur entreprise. Donc, il faut renvoyer une entreprise vers sa filière métier pour savoir ce qui existe, ce qui est en train de se mettre en place, parce qu'il n'y a pas une seule filière métier qui échappe aujourd'hui à un label RSE ou à quelque chose qui la démarque par rapport à une autre. Et c'est les filières métiers qui sont en train de se constituer, qui sont en train d'inventer des systèmes pour justement valoriser toute leur politique et la faire passer au niveau des marchés publics.
Oui, je suis d'accord avec toi, Philippe, mais surtout, ne tombons pas dans le piège. Si on prend, par exemple, dans le bâtiment, il y a Calibat. Calibat, avant, c'était, quand on prenait une entreprise qui était Calibat, c'était une gageure de sérieux, de professionnalisme. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont Calibat, tous les auto-entrepreneurs sont Calibat, et même certains travailleurs au noir. Alors, voilà, donc, c'est ça le pire, quand même. J'en ai découvert un il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc c'est voilà, je suis d'accord avec toi. Il y a assez de labels et de choses comme ça, mais il faut que aussi ces organismes-là restent sérieux et fassent un travail sérieux avec les gens qui frappent à leur porte.
Je peux intervenir aussi. Donc je voudrais pas un peu casser l'ambiance, mais ça fait 35 ans que je suis dans le marché public en tant que prestataire, hein, pas en tant que collectivité. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on va se heurter au code des marchés publics. Aujourd'hui, il est un peu cassé, puisque maintenant, on est entre les ordonnances et les décrets. Enfin, on verra ça encore. Mais je dirais, par rapport à ça, on va arriver avec notre label. Mais les gars, si ça n'existe pas, ça n'existe pas. Dans le bâtiment, je veux dire, et c'est du vécu, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a des volontés politiques de vouloir éventuellement mettre ça en avant, parce que les politiques, c'est un discours qu'ils aiment bien entendre, on va se heurter derrière aux services techniques qui, eux, ne veulent surtout pas s'emmerder. Et aujourd'hui, on est sur un marché hyper tendu et je le vis tous les jours. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne veulent surtout pas s'embêter. C'est-à-dire que le mieux-disant, pour eux, c'est un caillou dans la chaussure. Parce que le mieux-disant, ça veut dire qu'ils vont se retrouver au TA par le moins-disant et il va falloir aller ramer pour arriver à justifier pourquoi ils n'ont pas pris le moins-disant, ils ont pris le mieux-disant. Et là, c'est terminé, c'est du TA, c'est du boulot en plus, ils vont se faire chier. Donc surtout, ils ne veulent pas s'emmerder. Donc ils vont prendre le moins-disant et aujourd'hui, on en est là. Donc il y a un énorme boulot au niveau des politiques sûrement, mais moi j'ai souvent vu des politiques qui avaient un discours, mais alors vraiment sympa, ouais, pas de problème, on va vous faire bosser les locaux, les discours je les entends pas tous les jours, mais toutes les semaines, à chaque inauguration, que ce soit le sénateur, le préfet, le député, on va essayer de soutenir le marché local. Le coup d'après, vous arrivez, je me suis fait bouler mais des centaines de fois par des mecs qui venaient de 500 bornes, 1000 bornes, parce que les services techniques, ils faisaient leur boulot, puis c'est tout. Ça ne redescendait pas, c'est-à-dire l'élu ne redescend pas sur les services techniques. Il a ce discours-là avec les extérieurs, mais en interne, au niveau de ses propres services, je peux vous dire, quand on leur en parle, ils n'ont aucun retour de ce que le politique pense. Donc je pense qu'il faut y aller, mais le problème, les gars, je veux dire, on n'est pas arrivé. Il y a un énorme boulot.
Dans la mécanique des appels d'offres, on peut. Pardon. Je veux dire, le marché public, c'est exprimer une demande sans nommer ce que l'on désire exactement pour qu'il y ait une possibilité de concurrence. Et en fait, ce sont les appels à projets qui peuvent formuler des choses originales, expérimentales. Et à ce moment-là, c'est dans le conseil qu'on peut apporter à la collectivité sur l'appel à projet.
C'est la vocation de l'être. C'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est justement de travailler là-dessus. Christian, et après, on va passer au point suivant. Ouais.
Si on prend l'exemple des taux d'insertion dans les marchés publics, c'était tout ce que tu nous as dit. Il y a 15 ans, quand les premières clauses d'insertion sont apparues dans les marchés publics, c'était exactement ça. Mais tout doucement, pas à pas, les choses se mettent en place. Et aujourd'hui, il n'y a pas un élu qui va dire « Non, je ne veux pas mettre en place les clauses d'insertion dans les marchés publics parce que je prends un risque majeur. » Il a blackboulé tous les services techniques, tous les services juridiques qui lui disaient « Oh là là, il y a jurisprudence à Strasbourg, etc. » Je crois que votre démarche, elle est intéressante sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher un élément dans un contexte particulier, sur un marché sur lequel on peut faire valoir cet élément-là. Alors que ce soit sur de l'insertion des publics, sur de l'environnement, sur ce que vous voulez mesurer, mais allez chercher un seul élément et imposons-le pas à pas aux donneurs d'ordre en vérifiant bien sûr que ça ne revient pas, pourra pas être mis en cause. La démarche que l'on mène avec les marchés publics dans le cadre des clauses, elle se fait en collaboration avec les fédérations.
Fédération du bâtiment et la FRTP, sur lesquels on leur propose d'analyser ce qu'on veut faire, en disant, faites marcher vos services juridiques, dites-nous si la proposition-là, elle peut être dans un marché public ou pas. Si on va vers les collectivités, vers les services juridiques des collectivités, on ne franchit pas la porte, c'est même pas la peine. Ça revient à ce que tu dis, hein, ils s'ouvrent le parapluie en disant, non, c'est pas possible. Donc, il faut initier. Moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est vraiment ça, c'est le pas à pas, c'est le fait qu'il n'y ait pas un multiple en plus de labellisation, etc. Nous, sur le territoire de Belfort, on va mettre un label, mais qui peut être un élément de votre analyse par rapport à ça, qui ne sera jamais mis en place dans le cadre des clauses d'insertion par rapport à la démarche, puisqu'il ne répondra pas, et puis c'est porteur de litige. Par contre, c'est ce que souhaite l'élu, c'est mettre en avant ce que font les entreprises sur le local. Et en cela, cette expérience-là est bigrement intéressante pour montrer que moi, élu, et il se trouve que je suis élu d'une commune de 3500 habitants, on a à cœur de dire, voilà, la mairie qui a été refaite, c'est tant de personnes qui ont bossé, c'est éventuellement tel sous-traitant qui a fait bosser ou tel artisan qui a fait bosser ces gars, c'est ça qui revient dans l'économie locale, c'est cet élément-là qui nous semble important. Si on arrive déjà à faire ça, on aura fait un grand pas. Après, les marchés vont, le code des marchés va se permettre de le faire d'une façon plus rationnelle.
Bon, on peut y passer la nuit. Hein. On est passionné sur le sujet. Merci à nos amis de Bail Français pour la présentation. Donc, vous avez compris, on entame un grand chantier avec pas mal de choses à faire. Et puis, on va passer au point suivant.